La carte Visa Orange Money, retrait et paiement dans toute la zone UMOA, en partenariat avec la Banque Atlantique, vous propose l'émission Appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
François Mazet.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus, ravis de vous retrouver comme chaque jour à 7h06, cet appel sur l'actualité, votre émission de connaissance et de compréhension du monde et de l'actualité, de débat aussi. Dans une demi-heure, on parle ballon rond, le roi football reprend ses droits partout en Europe, les championnats ont commencé, le mercato se termine dans quelques jours, la Ligue des Champions arrive. Nous attendons vos pronostics, vos analyses pour cette nouvelle saison qui débute, qu'est-ce que vous en attendez? Omnipotence du PSG en Ligue 1, qu'à Neymar, le mercato de Barcelone, le retour de Zidane au Real Madrid, la toute puissante Première Ligue, voilà, vous commentez tout cela, les stars africaines également, Salah, Mané, Pépé, qu'est-ce que vous en attendez? Vous vous faites entendre par téléphone au 33 9 693 693 70, sur WhatsApp, vos messages 33 6 89 28 53 64 et sur la page Facebook de l'émission Appel sur Actu, comme tous les jours quand vous le souhaitez, vous laissez vos commentaires. Mais pour commencer, comme chaque jour, la rédaction de RFI et nos experts se mobilisent pour répondre à vos questions sur l'actualité. On débute avec les questions d'Abdoul. Bonjour.
Bonjour messieurs.
Abdoul, vous êtes à Conakry. Merci de votre fidélité à l'émission. Vous avez des questions en lien avec la campagne électorale en Tunisie. Allez-y.
Eh bien sûr, nous avons appris sur les antennes de la radio internationale l'arrestation du candidat Nabil Karoui est accusé d'évasion fiscale. Sur ce, nous avons deux questions. La première est de savoir pourquoi les avocats de Nabil Karoui accusent le Premier ministre Youssef Saïd d'être à l'origine de cette accusation précipitée.
Eh bien, on va le demander à Lilia Blaise, correspondante de RFI à Tunis. Bonjour Lilia.
Bonjour.
Alors Nabil Karoui, c'est un homme d'affaires à la base, hein, très populaire, passé du monde de la publicité à celui de la télévision. Il a été assez proche du président qui est décédé récemment, Béji Caïd Essebsi, et il fait figure dans les sondages de favoris pour le scrutin du 15 septembre. Alors son arrestation a été assez spectaculaire, son convoi a été bloqué à un péage d'autoroute, l'autoroute fermée. Très vite, les proches de Nabil Karoui ont visé le Premier ministre Youssef Chahed, lui aussi candidat à la présidentielle. Alors, pourquoi ces accusations?
Alors, en fait, ça fait plusieurs mois hein, que les avocats sont sur cette ligne, car Nabil Karoui avait commencé à être dans le radar du chef du gouvernement au moment de sa montée dans les sondages en juin dernier, selon les dires des avocats. Et puis aussi, le 18 juin dernier, le Parlement a voté des amendements à 128 voix pour de la loi électorale qui concernait l'exclusion de candidats qui avaient fait de la publicité politique par l'intermédiaire de médias ou qui n'avaient pas forcément un casier judiciaire vierge. Donc le vote de cette loi avait été un peu interprété comme le fait de cibler directement Nabil Karoui. Et puis, alors que selon le gouvernement qui avait proposé ces amendements, il fallait donner les mêmes chances à tous les candidats. Donc du coup, ces amendements n'ont pas été promulgués par le président défunt Béji Caïd Essebsi, ce qui a permis à Nabil Karoui de se présenter comme tous les autres candidats à la présidentielle. Mais depuis, la ligne de ses avocats et la ligne du parti, c'est toujours de dire que voilà, le gouvernement et plus particulièrement Youssef Chahed en a après lui. Alors il y a aussi cette question du timing de la justice, hein, parce que la plainte qui avait été déposée contre Nabil Karoui pour escroquerie, blanchiment d'argent et évasion fiscale, c'est une plainte qui a été déposée par l'ONG iWatch il y a plus de 3 ans. Donc du coup, c'est vrai que les avocats se sont demandé pourquoi une telle précipitation et pourquoi la justice l'a arrêtée juste avant la campagne électorale.
Oui, effectivement, Lilia, ça fait des mois hein, maintenant que les partis traditionnels essayent de barrer la route de Nabil Karoui. Cette arrestation, finalement, est-ce qu'elle n'offre pas une publicité supplémentaire au candidat Karoui?
Alors oui, c'est vrai que ça fait un peu office de publicité parce qu'on peut le voir, hein, surtout sur le Facebook tunisien, les internautes sont très divisés, la polémique enfle depuis quelques jours, beaucoup de gens ne parlent que de ça. Et puis, il faut quand même aussi préciser que le chef du gouvernement a répondu hein, à Nabil Karoui et à ses accusations. Il a déclaré que sur une radio de grande écoute que le pouvoir judiciaire est indépendant et que même s'il a admis que voilà, ça, cette arrestation perturbe un peu le climat politique. Il faut laisser la justice faire son travail. Et puis, le problème aussi dans ce que vous dites par rapport à la publicité, c'est que Nabil Karoui est toujours actionnaire dans la chaîne de télévision Nesma, dont il était le PDG il y a 4 ans. Et cette chaîne, depuis son arrestation, passe en continu des informations et des débats sur son arrestation. Ils avaient même parlé de kidnapping au début. Donc il y a une forme de propagande qui se fait et qui peut en effet s'assimiler à de la publicité politique pour Karoui, alors qu'il faut le préciser, la campagne électorale n'a pas encore commencé.
Oui, on entend bien une certaine tension dans cette campagne, pas encore officielle. Alors Nabil Karoui arrêté, Nabil Karoui accusé, mais Nabil Karoui candidat quand même le 15 septembre.
Alors oui, jusqu'à présent, l'instance supérieure indépendante pour les élections, l'ISI, a dit que tout candidat peut donc se présenter et du moment qu'il n'a pas retiré volontairement sa candidature ou qu'il n'est pas décédé. Alors l'instance doit encore publier cette semaine, à la fin de cette semaine, une liste définitive des candidats, mais jusqu'à présent, il n'est pas question que Nabil Karoui ne soit pas candidat. Il se pourrait, hein, d'ailleurs c'est ce que dit son équipe, qu'il fasse campagne depuis sa cellule de prison. Reste à savoir qu'est-ce qui se passera le jour des élections s'il est élu.
Merci Lilia Blaise, correspondante de RFI, d'avoir répondu aux questions de notre auditeur. Abdoul, est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous venez d'entendre ?
Satisfait, merci.
Eh bien, merci à vous, Abdoul, qui nous écoutez à Conakry, où il est 8h17. Des questions maintenant sur l'affaire Jeffrey Epstein. Vous savez, c'est cet homme d'affaires américain qui s'est suicidé en prison après la révélation de multiples agissements, viols, agressions sexuelles, notamment sur des mineurs et dans plusieurs pays. Affaire qui a eu d'énormes répercussions aux États-Unis, mais qui a aussi un volet français. Et Alidor souhaite des précisions à ce sujet. Bonjour, Alidor.
Bonjour François Mazet, bonjour à tous les éditeurs de la Radio Mondiale.
Vous êtes à Kinshasa, que voulez-vous savoir ?
Absolument, j'étais déjà avec vous sur cette affaire et je rebondis encore. L'affaire Epstein commence à avoir effectivement des répercussions, notamment en France. Une association a reçu des témoignages des victimes françaises. Et du coup, je voudrais savoir, comment expliquer que les affaires d'agression sexuelle, du financier et de récupération en France ?
Eh bien, on va le demander à Simon Rosé du Service France. Bonjour Simon.
Bonjour François.
Alors déjà, est-ce qu'on peut faire un petit point pour tous nos auditeurs sur la procédure judiciaire qui a été ouverte en France ?
Eh bien, il y a une enquête préliminaire qui a été ouverte par le parquet de Paris vendredi dernier, vendredi 23, pour des chefs d'accusation de viol aggravé, de violence en réunion. Ça fait suite, comme l'a dit Alidor, au témoignage qui avait été déposé par deux associations d'une dizaine de victimes du milliardaire et ça avait été l'objet d'une petite polémique puisque un bon mois avant l'ouverture de cette enquête, deux membres du gouvernement s'étaient exprimés publiquement en réclamant justement l'ouverture de cette enquête et en vertu de la séparation des pouvoirs, ça gênait un peu. Bon, finalement Rémi Yates, le procureur de Paris, a décidé vendredi dernier l'ouverture de cette enquête.
Oui, parce qu'il y a donc des ramifications françaises, des victimes françaises potentiellement. Jeffrey Epstein venait régulièrement à Paris. Que sait-on de ces ramifications ?
Alors c'est l'enquête américaine qui nous en apprend pas mal parce que de nombreux documents ont été rendus publics, notamment les témoignages de la principale accusatrice de Jeffrey Epstein, Virginia Roberts Giuffre, qui avait déclaré aux enquêteurs américains que lors de ses soirées d'anniversaire, Jeffrey Epstein avait pu faire venir deux très jeunes femmes françaises en guise de cadeau. On connaît ses liens avec la France et notamment avec Paris où il avait un très grand appartement dans le 16e arrondissement. Ouais. Il a été arrêté aux États-Unis en revenant de Paris. Il se pose également la question du rôle d'un très proche de Jeffrey Epstein, le français Jean-Luc Brunel, qui est un grand nom, une figure du monde de la mode. Il revient souvent dans le dossier américain. Il y a la question de son carnet d'adresses qui a été divulgué par un média américain dans lequel on retrouve de nombreux noms français, de nombreux numéros de téléphone français, en plus 33 en 0033, l'indicatif français, avec cette mention accolée « Massage Paris ». Donc là, ça va être le rôle des enquêteurs français de savoir jusqu'où s'étend cette affaire en France.
Et justement, Alidor, vous avez une seconde question.
Absolument. Puisque votre spécialiste parle de ramification en France, est-ce qu'il y a des personnalités françaises qui pourraient être impliquées ?
Alors, pas notre connaissance pour l'instant, mis à part ce Jean-Luc Brunel, qui est vraiment une grande figure du monde de la mode en France, contrairement au volet américain, où il y a pas mal de noms qui sont sortis.
Oui, on parle de Donald Trump, des époux Clinton, etc.
Donc, du prince Andrew au Royaume-Uni. Pour l'instant, en France, c'est pas encore le cas. On va voir, les enquêteurs sont en train de travailler dessus. On va voir jusqu'où ça va aller.
Merci en tout cas à vous Simon d'être venu et merci à Alidor de suivre cette affaire à Kinshasa. Direction Vichy, c'est dans le centre de la France. Bonjour Destin.
Bonjour.
Vous avez appris que l'Office français de l'immigration et de l'intégration allait transformer prochainement la carte qu'elle met à disposition des demandeurs d'asile, qu'elle ne servirait plus à retirer de l'argent mais uniquement de moyens de paiement. Je crois Destin que vous êtes vous-même concerné par cette décision et vous avez des questions sur ce sujet.
Oui, oui. Donc récemment, nous avons appris que l'Office français de l'immigration et de l'intégration avait annoncé que la carte ADA, donc qui nous sert d'allocation pour les demandeurs d'asile, n'allait plus nous servir uniquement qu'à payer les trucs au lieu de faire des retraits liquides. Donc ma question était de savoir pourquoi les demandeurs d'asile ne pourront-ils plus procéder à des retraits d'argent liquide.
Eh bien, on va le demander à notre consoeur Tiffany Fillon du site Info Migrants qui nous rejoint. Bonjour Tiffany.
Bonjour.
Alors déjà, pour commencer, pouvez-vous nous rappeler à tout le monde ce qu'est la carte ADA, qui en bénéficie et comment elle fonctionne?
Donc la carte ADA, c'est une carte de paiement que reçoivent les demandeurs d'asile de la part de l'OFI. Sur cette carte, l'allocation pour demandeurs d'asile, donc l'ADA, est versée chaque mois. Je tiens d'ailleurs à préciser que l'ADA est la seule allocation que les demandeurs d'asile peuvent recevoir. Le montant de l'allocation dépend de la situation familiale du demandeur d'asile. Par exemple, 190 euros par mois pour un homme seul et 476 euros par mois pour un couple avec deux enfants. Pour retirer cette allocation, le demandeur d'asile doit aller à un distributeur de billets, comme n'importe quel citoyen, mais ce ne sera bientôt plus possible.
Alors justement, pourquoi ils ne pourront plus procéder à ces retraits d'argent liquide?
Alors pour justifier cette réforme, l'OFI, l'organisme français donc qui délivre la carte ADA, avance deux arguments. Le premier, c'est celui de la protection des demandeurs d'asile. En fait, lorsqu'ils ont de l'argent liquide sur eux, l'OFI estime que les demandeurs d'asile sont plus exposés aux rackets ou aux vols. Donc en empêchant les demandeurs d'asile de retirer de l'argent, ils seront, selon l'OFI, moins vulnérables et plus en sécurité. Donc ça, c'est le premier argument. Le second argument, c'est celui des fonds non utilisés. Il peut arriver que les demandeurs d'asile aient par exemple 6, 7 euros, bref, moins de 10 euros sur leur carte ADA. Et dans ce cas, il n'est pas possible pour eux de retirer de l'argent parce qu'en fait, les distributeurs de billets ne délivrent pas de billets d'une valeur inférieure à 10 euros. Donc voilà les deux raisons qui expliquent le changement de fonctionnement de cette carte ADA.
Alors Tiffany, Destin a une autre question pour vous. Nous vous écoutons, Destin.
Oui, donc, l'Office français de l'immigration et de l'intégration avait finalement repoussé à novembre l'entrée en rigueur de cette réforme. En repoussant en novembre, pourrait-il revenir à un retour en arrière de la part de l'OFI?
Alors c'est très peu probable. Hein. L'OFI a publié un communiqué qui annonce que la réforme sera appliquée à partir du 5 novembre, oui. Donc c'est officiel et ça ne devrait pas changer. L'OFI a en plus déjà décalé la date d'entrée en vigueur. Elle était fixée à l'origine au 5 septembre. Mais attention, ce n'est pas parce que l'OFI hésite qu'il a décalé la date, mais parce qu'il a voulu laisser du temps au commerce type épicerie solidaire pour qu'il s'équipe de machines à cartes. Donc normalement, il n'y aura pas de retour en arrière.
Alors il faut bien préciser pour Destin et pour les autres personnes concernées qu'il reste un moyen d'obtenir de l'argent liquide avec la carte ADA, c'est avec le cashback. Alors qu'est-ce que c'est que le cashback?
Oui, tout à fait. Alors le cashback, c'est un système qui permet d'obtenir de l'argent liquide à la caisse d'un commerce. Par exemple, je vais acheter de la nourriture pour 10 euros, je demande en caisse de payer 30 euros en carte et de me rendre la différence en liquide, donc en l'occurrence 20 euros. Ce système est peu connu en France et même plutôt marginal, mais il existe. Mais l'OFI explique que les demandeurs d'asile pourront utiliser le cashback et donc obtenir de l'argent liquide.
Oui, jusqu'à moins de 10 euros pour récupérer cet argent qui jusque-là était coincé sur le compte et pas accessible via une borne bancaire. Merci. Destin, est-ce que vous êtes satisfait des réponses? Est-ce que vous en savez plus désormais?
J'avais une dernière question.
Alors Destin, écoutez, allez-y, pourquoi pas. Rapidement, Destin.
Oui. Parlant du cashback, est-ce que ce sont tous les supermarchés qui le font?
Alors non, justement, en fait, c'est un nombre très restreint de supermarchés qui le mettent en place. Pour l'instant, le groupe Casino l'a mis en place dans certains supermarchés et hypermarchés. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est quand même très marginal. Hein. Mais ça risque de se développer à l'avenir.
Voilà, Destin, donc le mieux pour vous, c'est sûrement de vous renseigner dans les commerces près de chez vous, dans le centre de Vichy, où vous nous écoutez, et où il est 10h25. Avant de lancer le débat sur la saison du foot d'août en Europe qui débute. Eh bien, avant d'avoir vos pronostics, vos analyses sur les joueurs à suivre, les potentielles surprises, échecs de la saison, on va répondre à des questions de Mossadou sur le Paris Saint-Germain. Bonjour Mossadou.
Oui, bonjour François, bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Vous êtes, je crois, à Daboua, dans le centre de la Guinée, c'est ça?
Oui, à Daboua, bien sûr.
Alors, nous vous écoutons.
Ok, comme je le disais, François, j'ai dit, le match de la troisième journée de Ligue 1, qui opposait Paris Saint-Germain et Toulouse, a vu sortir Cavani et Mbappé sur blessure. Alors que Julian Draxler, Herrera et Timo Kerrer sont toujours blessés. Alors, comment expliquer cette cascade de blessures? Est-ce que c'est dû à la préparation physique?
On va le demander à Thomas de Saint-Léger du service des sports. Bonjour Thomas.
Bonjour François.
Alors on a les cuisses qui sifflent du côté du Paris Saint-Germain, les hanches qui couinent aussi, Mbappé et Cavani sont à l'infirmerie. Est-ce qu'il y a une explication rationnelle à cet enchaînement de blessures?
Alors malheureusement, mes études de médecine se sont arrêtées au bout de quelques semaines. Mais ce que je peux vous dire à 100%, c'est que les blessures musculaires comme celles que viennent de connaître Mbappé, Cavani, avant Ander et Herrera, elles ne tombent pas du ciel sans explication. Elles peuvent intervenir chez des sportifs dont l'hygiène de vie n'est pas irréprochable, chez des sujets fragiles. A priori, ces deux hypothèses sont écartées hein, concernant les joueurs en question. Plus probable l'explication de la surchauffe. Comme le moteur d'un véhicule, le corps est en sur-régime et il lâche. Elle est sans doute là l'explication de cette petite épidémie à Paris. Une préparation physique musclée. La Copa América pour les Sud-Américains. La tournée en Chine avec à la clé des transferts, du décalage horaire. Bref, des organismes déjà très sollicités avant même la reprise de la Ligue 1. Et beaucoup de travail aussi pour un staff médical renouvelé à l'intersaison.
À Dabora Moussadou, vous avez une autre question.
Oui, j'ai dit comment le Paris Saint-Germain va aborder ce mois de septembre qui arrive, notamment avec le retour de la Ligue des Champions sans ses attaquants vedettes.
Ouais, la Ligue des Champions, hein, le tirage au sort, c'est en fin de semaine. Paris dans le premier chapeau, on en parlera bien sûr sur RFI. Première journée des phases de poule les 17 et 18 septembre. Alors concrètement, Thomas, avec ses blessures, comment le PSG va-t-il se débrouiller et rebâtir son attaque?
Alors d'abord, François, on va rappeler quelque chose, c'est que l'objectif de cette préparation très lourde, c'est d'avoir un pic de forme en deuxième partie de saison, quand Paris jouera, si tout va bien, les matchs décisifs de sa saison en France et en Europe. En attendant, oui, le PSG débutera sa campagne de Ligue des Champions sans Cavani, sans Mbappé qui va les remplacer. C'était toute la question. Pourquoi pas le Camerounais Eric Choupo-Moting, très bon contre Toulouse dimanche dernier avec deux buts. Pourquoi pas un jeune? Ils sont plusieurs à pousser à la porte de l'équipe première. Ce qui est sûr, c'est que ça ne sera pas Neymar. D'abord, le Brésilien est suspendu pour les trois premiers matchs de Ligue des Champions. Ensuite, vous le savez, il se rapproche de plus en plus du départ.
Ah oui, justement, quelles sont les dernières informations sur ce sujet? Tous nos auditeurs brûlent de savoir quel maillot va porter Neymar cette année.
Alors, l'hypothèse d'un retour au FC Barcelone a pris un peu plus d'épaisseur. Hier, vous le savez, ce feuilleton Neymar, à chaque jour, sa rumeur, mais depuis hier, c'est vraiment plus concret. Une réunion a eu lieu entre les dirigeants du PSG et du Barça. Les positions des deux clubs se sont rapprochées. On parle d'une somme de 170 millions d'euros. Reste des divergences sur les modalités de paiement, étalé ou non. L'ajout d'un joueur dans cette transaction pourrait permettre de faire pencher la balance. On pense à Ousmane Dembélé, reste là encore à convaincre le joueur. Ce qui est sûr, c'est qu'il reste pas mal de nœuds à démêler pour arriver au bout de cette histoire et qu'on y arrivera forcément puisque lundi prochain, le 2 septembre à minuit précisément, fermera le marché des transferts.
Voilà, encore quelques jours pour avoir la conclusion de ce feuilleton haletant du transfert de Neymar pour lesquels nous avons reçu ces dernières semaine des dizaines et des dizaines de questions et de commentaires. Et justement, dans la deuxième partie de l'émission, juste après le journal, dans 10 minutes, vous allez pouvoir en parler. Est-ce que Neymar doit rester au Paris Saint-Germain? Est-ce qu'il doit se racheter auprès du club et des supporters après leur avoir manqué de respect? Est-ce qu'il doit retourner à Barcelone pour gagner la Ligue des Champions? On en parle. On parle aussi du mercato. On parle de la saison qui s'est lancée. On attend vos commentaires sur Facebook, par téléphone, par WhatsApp. À tout de suite.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.